Nzamba.
Nzambira samirana. Le journal avec Francine Kanyani.
Vous êtes bien sur la radio Nzamba Gate Kakawe, c'est l'heure du journal de ce lundi 16 janvier 2023. Tout d'abord les titres. Le secrétaire général du CNDD-FDD a prononcé un discours d'intimidation vendredi dernier à Nyazalak, c'est ce que dénoncent des membres de ce parti dans cette commune. Vous aurez les détails dans ce journal. Évariste Ndayishimiye devrait s'impliquer pour la libération du docteur Christophe Sahabo. C'est un rappel lancé dans une correspondance par la famille de l'ancien directeur de Kila Hospital. Et puis l'inquiétude est grande chez les écoliers du camp de Nyarugusu en Tanzanie et chez les parents. Ils ont été renvoyés à la maison ce lundi sans aucune explication. Merci encore une fois d'être avec nous. Bonjour, bonsoir, bienvenue.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
Des militants du parti CNDD-FDD de la commune Nyanzalak dans la province Makamba se lamentent. Ils dénoncent son discours d'intimidation prononcé vendredi dernier par le secrétaire général de ce parti, Révérien Dikuliyo. Selon eux, il s'agit d'un discours visant à intimider toute personne qui oserait dénoncer ce qui ne marche pas dans cette commune. Ces militants du CNDD-FDD n'en reviennent pas. On fait le point avec mon fils Niyongele.
C'était vendredi dernier à Nyanzalak, dans le cadre de descente que le secrétaire général du parti CNDD-FDD est en train d'effectuer dans toutes les zones du pays. Des sources à Nyanzalak indiquent que Révérien Dikuliyo a d'abord intimé l'ordre à l'assistance d'éteindre le téléphone portable et de ne pas enregistrer son discours et que le contrevenant sera exposé à des sanctions très sévères. Il a mis en garde toute personne qui tenterait de s'ingérer dans l'administration de la commune pour dénoncer ce qui ne marchait pas, ce que trouvent aberrant les militants du CNDD-FDD dans la commune Nyanzalak.
C'était une réunion pour intimider surtout les gens qui dénoncent les manquements et les cas de malversation commises par l'administrateur communal de Nyanzalak. Nous sommes étonnés de voir un responsable du parti au niveau national soutenir quelqu'un qui détourne les biens de l'État. Tout son discours est un discours pour faire peur celui qui osera dénoncer ce qui ne va pas dans la commune.
Ces militants du parti de l'Aigle dans la commune Nyanzalak constatent avec amertume que les propos de Révérien Dikuliyo contrarient ceux du chef de l'État Évariste Ndayishimiye qui demande plutôt à la population de dénoncer tout ce qui va mal dans leurs communes respectives.
Nous constatons qu'il y a un double langage entre le discours du chef de l'État et celui du secrétaire général du parti. C'est vrai, nous sommes tous des militants du parti CNDD-FDD, mais nous ne comprenons pas comment le chef de l'État nous demande de dénoncer ceux qui font des malversations et que le responsable national du parti demande le contraire. Cela nous inquiète ici dans la commune Nyanzalak.
Les membres du parti CNDD-FDD interpellent la présidence de la République du Burundi à suivre de près les discours du secrétaire général du parti CNDD-FDD dans la commune Nyanzalak. La radio Nzamba Gate Kakawe, nous n'avons pas encore parvenu à joindre par téléphone le secrétaire général du parti CNDD-FDD, Révérien Dikuliyo, pour qu'il puisse réagir à ce qui lui est reproché par les militants de son parti en commune Nyanzalak.
Merci mon fils Niyongele, je vous le disais dans les titres. La famille du docteur Christophe Sahabo, ancien directeur de l'hôpital Kila, incarcéré depuis 9 mois, demande au président de la République de s'impliquer pour le faire libérer. Cela apparaît dans une lettre que sa famille a adressée ce lundi à Évariste Ndayishimiye. Pour ses proches, docteur Sahabo a été arrêté et emprisonné injustement sur la base de son montage grotesque porté contre lui. Signoline Nizimbele. Dans cette lettre, la famille de feu Dr. Luc Sahabo, représentée par Jean-Marc Sahabo, est de fond un comble hanté par les innombrables irrégularités judiciaires et violations de la loi dans la procédure de l'emprisonnement de leur frère, Dr. Christophe Sahabo, à telle enseigne qu'ils osent solliciter le concours du président afin qu'il soit relaxé et réhabilité. La famille Dr. Sahabo indique dans sa lettre qu'elle est convaincue qu'à cause des motifs inavoués de certains, la véracité juridique intrinsèque et les vrais motifs qui emprisonnent le Dr. Christophe Sahabo lui ont été sciemment cachés et il y a comme une main souterraine, malsaine, qui mystérieusement inhibe la vérité à l'égard de la justice burundaise. Dans cette lettre, la famille montre qu'il y a plus de 2 mois, un rapport d'audit commandité par les pouvoirs publics a innocenté leur frère en matière de gestion de la société qu'il a hospitalisée. La famille dit être écœurée que leur frère entame un 10e mois d'incarcération sans procès, loin de sa zone de juridiction, transférée à la prison de Luigi depuis environ 3 mois et même l'assistance d'un avocat lui est actuellement refusée, son avocate ayant été brutalement incarcéré et obligé de signer la rupture de contrat de défense. La famille du docteur Sahabo rappelle dans cette lettre que dans la nuit du 30 mars 2022, leur frère, le docteur Christophe Sahabo, a été arbitrairement et illégalement arrêté, sans mandat, sans être préalablement averti de ce qui lui est reproché, eu égard à toutes ces irrégularités et violations judiciaires évoquées. La famille de feu, le docteur Luc Sahabo, tire la conclusion pure et simple que le montage qui emprisonne leur frère Christophe Sahabo traduit une parodie de justice. La famille de feu, le docteur Luc Sahabo, termine sa lettre en suppliant le président Évariste Ndayishimiye, en sa qualité de juge suprême, d'user de son pouvoir afin que leur frère Christophe Sahabo puisse être relaxé et réhabilité dans ses droits.
Signaline Nizumbele et puis 1122 candidats officiers ont passé le premier test d'entrée à l'Institut supérieur des cadres militaires du Burundi samedi dernier. Une cinquantaine l'ont passé dans les enceintes même de l'ISCAM. Le porte-parole de l'armée fait savoir que les 1122 candidats se composent de 691 candidats, ou tout 226 Tutsis et 7 d'ethnie Batwa. De son fils figure également parmi ces candidats. Le colonel Loribert Biyereke indique que le dernier examen physique sera organisé le 21 janvier prochain. On l'écoute.
Vous constatez que nous avons le même objectif que celui de l'année passée. Nous sommes alors satisfaits. Nous avons eu un effectif que nous escomptions avoir. Ce sont des candidats qu'il faut. Parmi ces 1122 candidats, nous comptons 691 Hutus et 226 Tutsis, 7 Batwa et nous comptons également parmi ces candidats 200 filles.
C'était le porte-parole de l'armée burundaise pour la coalition politique CFOR Arusha. Ce recrutement à l'ISCAM viole l'accord de paix d'Arusha qui prévoit un équilibre ethnique au sein des corps de défense et de sécurité de 50% Hutu, 50% Tutsi. Le vice-président de cette coalition déplore cet état de fait et demande au gouvernement de rétablir cet équilibre pour garantir la paix à toutes les composantes de la communauté burundaise. On écoute Jean Bosco Wigemela.
Le recrutement en cours à l'ISCAM, tel que présenté par le porte-parole de l'armée burundaise, montre des effectifs de l'ordre de 79,4% d'Hutu et de 20,1% de Tutsi, un déséquilibre notoire par rapport au prescrit de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi, qui a envisagé 50% de Hutu et 50% de Tutsi. Le même porte-parole fait savoir que les effectifs sont similaires à ceux de l'année dernière, ce qui signifie que le déséquilibre n'est pas nouveau. Le porte-parole conclut sur une note de satisfaction que les effectifs couvre les besoins sans se soucier de ces déséquilibres longtemps constatés et entretenus par le pouvoir CNDD-FDD, parce que justement, ça entre dans la politique du parti qui a toujours affiché en scepticisme vis-à-vis de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi. Pour ce fort Arusha, nous regrettons cette situation de déséquilibre entretenue par le pouvoir et nous en appelons à la jeunesse burundaise de se réveiller, d'avoir la conscience des enjeux sécuritaires et surtout de ne plus laisser le champ libre aux autorités, tant politiques que militaires, qui pourraient faire de ce déséquilibre une opportunité de domination allant dans le sens de l'insécurité au sein de la population.
Une courte pause et on se retrouve pour la suite de ce journal.
Inzamba.
La suite de ce journal avec l'économie, le Burundi devrait prendre des mesures d'atténuation de l'inflation perpétuelle due en partie à la guerre que la Russie a déclenchée en Ukraine. C'est ce qu'a déclaré Gabriel Roussilly, président de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques dans un point de presse animé ce lundi. Le président de l'ELICOM indique qu'en votant le budget annuel, le gouvernement devrait viser particulièrement les secteurs porteurs de croissance, dont l'agriculture. Écoutez Gabriel Roussilly.
L'inflation qui arrive à un niveau très inquiétant, parce que comme vous le savez, selon le rapport de la BRB, le récent rapport parle de 26,8% de l'inflation. Donc c'est la première fois au Burundi qu'on arrive à ce niveau. Donc, je disais qu'il y a des causes exogènes, comme la guerre que la Russie a déclenchée en Ukraine, mais pour nous, les causes endogènes sont très importantes aussi. Le gouvernement a une obligation de satisfaire les quatre besoins fondamentaux, à savoir se nourrir, se loger, se faire soigner et se vêtir. C'est une obligation de l'État. L'inflation doit être combattue en mettant en place des stratégies pour aider les citoyens. Je disais aussi que quand vous regardez le niveau de pauvreté, aujourd'hui, selon les rapports de la Banque mondiale, du FMI, du PNUD et d'autres institutions importantes, plus de 70% de la population vivent en dessous du seuil de la pauvreté. Aussi, il faut savoir que le PIB par habitant aujourd'hui, il est à moins de 260 $ par an et par habitant. Pour vous dire que le Burundi est le premier pays le plus pauvre au monde. Avec tous ces indicateurs qui sont au rouge, il nous faut vraiment retrousser les marches. D'abord, en votant un budget d'austérité. Ça, le budget d'austérité, le budget des bambous, ça c'est le budget général de l'État. Si vous consultez ce document, vous allez vous-même voir qu'il est impossible d'avancer avec ce genre de planification budgétaire. C'est la raison pour laquelle le gouvernement doit vraiment se forcer d'urgence avant la fin de l'exercice budgétaire en procédant à la révision en vue d'adopter le budget au contexte actuel. C'est-à-dire quoi? Voter un budget d'austérité qui vise les secteurs porteurs de croissance, comme l'agriculture et d'autres, puissent être mis en avant dans le but d'avancer vers la lutte contre l'inflation. Mais cela vraiment demande un effort considérable.
Santé animale à présent, une maladie porcine encore inconnue a fait son apparition en province Muyinga depuis près d'un mois. Plus de 50 porcs en sont déjà morts sur plus de 10 collines de la commune Giterani, c'est dans la province Muyinga. Dans un communiqué sorti samedi, l'administratrice communale Floride Ndouayezou instruit les éleveurs des collines déjà atteintes par la maladie de garder les animaux à l'étable pour ne pas favoriser la propagation de la maladie. Les détails avec Pierre Garungu.
Cette maladie qui fait peur aux éleveurs serait soupçonnée comme étant la peste porcine selon une source digne de foi. En l'espace de moins d'un mois, au moins 53 porcs sont déjà morts, indique la même source sans donner trop de détails. Dans un communiqué rendu public samedi par l'administrateur de la commune Muyinga, Floride Ndouayezou, cette maladie se manifeste par les symptômes suivants. L'inappétence, des traces de sang sur la peau, la faiblesse généralisée et une fièvre aiguë. Cette autorité communale ordonne aux éleveurs de limiter le mouvement de ces animaux. Aucun porc n'est autorisé de quitter l'étable pour se rendre dans un autre ménage, encore moins dépasser la colline pour se rendre sur une autre entité collinaire. Les bouchers sont appelés à abattre des porcs ne présentant pas encore ces symptômes et se trouvant sur les collines non encore contaminées par la maladie. Selon ce communiqué, l'abattage doit se faire sur les lieux où le porc a été vendu et la viande doit être transportée dans un seau jusqu'au lieu de vente. Signalons que cette maladie est également signalée en commune Mutihinda. Selon une source sûre, Le personnel du Laboratoire national de la santé animale a déjà fait des prélèvements en vue de diagnostiquer cette maladie. Les éleveurs demandent à l'État du Burundi de tout faire pour leur disponibiliser dans les meilleurs délais des médicaments adéquats pour traiter la maladie. Rappelons qu'une maladie du genre avait été signalée au début du mois d'octobre 2022 dans les provinces de Gitega, Ururi, Muyinga et Rumonge.
Pierre Gahungu, merci. Autre lieu, autre fait inquiétant, les élèves de l'école primaire du camp de réfugiés de Nyarugusu en Tanzanie n'ont pas étudié ce lundi. Ils s'étaient présentés à l'école, mais eux, tout comme leurs enseignants, ont été sommés de retourner chez eux sans aucune explication, sans non plus leur préciser la date de retour. Des sources sur place pensent que la cause serait un bras de fer qu'il y a entre deux organisations qui s'occupent du secteur éducatif dans le camp de Nyarugusu. Josephine Dant Mundimana.
Les informations que nous détenons en provenance du camp des réfugiés de Nyarugusu indiquent que les enfants et leurs enseignants s'étaient présentés ce lundi matin à leurs activités quotidiennes. À leur grande surprise, les autorités leur ont demandé de retourner à la maison sans leur préciser ni le motif ni la date de retour. Écoutez le témoignage de son parent.
Aujourd'hui, en cette date du 16 janvier, les enfants se sont présentés à l'école. Ils ont été chassés et les classes étaient fermées. Les enseignants et d'autres autorités scolaires s'étaient eux aussi présentés. On leur a dit de rentrer et qu'ils reviendront à une date qui leur sera précisée ultérieurement.
Les parents soupçonnent que la cause serait liée à un bras de fer dans la gestion de ce secteur entre deux organisations chargées du secteur éducatif au camp de Nyarugusu. Il s'agit de Save the Children et de International Rescue Committee.
Les informations que nous avons recueillies font savoir qu'il y a un bras de fer entre les organisations Save the Children et les représentants de IRC qui fait tout pour avoir le monopole du secteur éducation. Save the Children n'attend pas travailler sous la dépendance d'une autre organisation. Cette ONG ne veut pas céder ses biens à IRC.
La rédaction de la radio Inzamba à Gatika Kawe, nous avons cherché par téléphone Stéphanie Kiwondo, qui représente Save the Children au camp de Nyarugusu. Son téléphone était hors du périmètre cellulaire.
Josephine Jones Mundimana est en page sportive de la semaine écoulée pour clore ce journal. Au basketball, Urunani a remporté hier la Coupe des Playoffs édition 2022. Il s'agit du 10e titre de cette formation cette saison. Urunani, qui, en plus d'une coupe, a eu droit à une enveloppe de 5 millions de francs burundais. Au tennis, le Burundi a remporté la première place du tournoi régional de tennis des moins de 16 ans. C'est les garçons, tandis que du côté dames, c'est le Kenya qui a remporté la mise. Les détails avec Alexandre Niyungeko.
Le Burundi a terminé au sommet du tennis régional de Bujumbura côté masculin. Des tennismans burundais n'ont laissé aucune trace à leurs adversaires en simple comme en double. Ce qui a fait que le Burundi sera présent dans les championnats d'Afrique juniors qui vont débuter bientôt. Mis à part les performances du Burundi, la réussite de l'organisation lui permettra d'abriter le tournoi des professionnels au mois d'avril. Chez les filles, le Kenya a arraché la première position dans la sous-région grâce à une performance incomparable des Kenyans dans toutes les catégories. Ces dernières ont tout raflé dans le jeu simple comme dans le double ou dans la compétition par pays. Au basketball, ce dimanche, Urunani a été sacré champion des playoffs 2000-2022 après avoir battu Dzimikana pour la 4e fois consécutive. En plus d'une coupe, Urunani est rentré à la maison avec une enveloppe de 5 millions de francs burundais. Il s'agit du 10e titre d'Urunani cette année, un titre qui fait de cette formation l'équipe de l'année 2022 du basketball burundais. Côté féminin, les gazelles se sont imposées sur Gladiators pour la 2e fois. Score final 50-46. Il est à signaler qu'il faut 4 victoires pour remporter la coupe des playoffs. Au volleyball, la phase retour du championnat national a atteint les quarts de finale. Ce dimanche, Amicala a battu Amivo Ami de volleyball de Rumonge par 3-7-0. Même score entre Rukinzo et Muzinga en faveur de Rukinzo. Boone est venu à Budo Cosmos par 3-7-2, alors que Bissoro s'est imposé très facilement sur Vumbi par 3-7-0. Côté dames, JLC a battu Étoile de Kilimba par 3-7-0. Même score entre Muzinga et les As en faveur de Muzinga. tout comme EJA, NF de Gitega in Action, qui a tétanisé Agasaka par le même score, 3-7-0. Au football, l'international burundais Youssouf Ndayishimiye Dinyange, qui joue en Turquie, est en passe de quitter Istanbul Başakşehir pour rejoindre la Ligue 1. Après Bordeaux, c'est le tour de Nice qui met en jeu 9 millions d'euros pour le transfert de Nyange. Mais son club signe et persiste. Il faut au moins 12 millions d'euros pour valider le transfert de cet international burundais. Et le dénouement est attendu ce 31 janvier 2023.
C'est par vous, Alexandre, que se termine cette édition. Merci à la rédaction Inzamba Gatekakawe pour la production de ce journal. Un grand merci surtout à vous, chères auditrices et auditeurs, pour votre fidélité. Excellente semaine à tous. Au revoir.